Il y avait des feuilles entassées tout autour. Ça faisait sur le sol une jupe rousse et brune, et l'arbre en dessus, nu, comme une fille tendant ses bras maigres vers le ciel. Une barrière mal entretenue. Plus bas, un ruisseau qu'on entendait. Il y avait peu d'eau, chaque caillou tenait la note. L'endroit était désert, c'était l'extrémité de la propriété. Les gens souvent n'en quittaient même pas la cour. Ils ignoraient jusqu'à l'idée de ce merisier solitaire qui mettait un point final au chemin. Ici s'arrêtait le parc. L'eau poursuivait, laissant les promeneurs comme des chiens abandonnés à un pieu, tandis qu'elles s'en allaient libres vers le lointain. Et ce point d'arrêt, au gigantesque ombrage, était la mesure infranchissable des envies de fuite de ceux qui pouvaient encore rêver. Et c'est là qu'elle était parvenue. Mais prenons tout ceci par son début. Il faut imaginer une campagne assez douce, à la limite des climats. Il peut y faire très chaud et sec et pelé. On peut aussi passer les étés entiers à décompter la pluie. Les terres sont vallonnées et parfois cultivées. Le ciel est court, comme tous les pays de forêts et de bocages, où le sol ne cesse de se voûter et se cambrer. La propriété date d'une époque lointaine. C'est Mansart, l'architecte du roi Soleil, qui l'a conçue en son temps. Depuis, il ne reste plus que les toits pour parler de lumière. Le parc a poussé et d'autres bâtiments ont surgi tout autour de la cour centrale. Les propriétaires s'étaient refilés ce coûteux bijou de génération en génération, mais désormais, il servait à maintenir debout quelques dizaines de vieillards entourés des meilleurs soins et interdits de vivre. C'est bien souvent le sort des châteaux que de finir en espace de charité. Chapitre 1. Madame Inkle était arrivée seule. Personne ne l'accompagnait, aucun enfant ou parent. Elle venait de son plein choix, c'était rare que ça se passe de cette façon. Elle avait un petit bagage, une malle et un grand carton à chapeau. La mode n'était plus au chapeau. Elle promettait donc d'être originale. Mais en soulevant cette boîte, on comprit qu'elle ne contenait ni paille ni feutre, bien trop lourde pour cela. Madame Hinkle était vêtue de blanc, avait une canne et des espadrilles en toile. Un long collier avec une pierre en forme de grenade pendait sur sa casaque. Ses cheveux étaient fatigués, tout comme sa bouche, une rose en bouton sec. Elle ne souriait pas sans être indifférente non plus. Elle avait l'air, pour tout dire, résolue et décidée. Comme elle marchait encore facilement, on avait choisi pour elle une chambre dans une aile du château, en songeant que ça la maintiendrait alerte, faute de lui offrir le même confort paresseux qu'à d'autres. Elle n'avait rien dit. Elle voulait voir le soleil couchant, c'était son unique exigence. Dès le premier soir, elle fit parler d'elle. Les messieurs du quartier moderne voulaient l'inviter à leur table. Ils avaient pris les devants en lui offrant un petit bouquet de pâquerettes. C'était un geste inattendu et poétique, mais qui échoua tout de même à détendre Madame Inkle, qui se dirigea fermement décidée vers une petite desserte qu'elle désigna comme sa table personnelle. Les hommes s'en retournèrent dépités. Quelques femmes les plaisantèrent, mais le ton était donné. Cette femme avait un grain, déjà, probablement plus atteinte encore qu'eux, et il valait mieux ne pas se frotter à elle, si l'on ne voulait pas croiser son propre avenir dément. Pendant les premiers jours, on ne la vit qu'au repas. Elle y venait diaphane, les cheveux vaguement arrangés. Elle s'asseyait, mangeait lentement et puis se retirait en saluant d'un simple bonsoir l'assemblée des pensionnaires. Comme le temps n'était guère favorable aux sorties, on ne s'inquiétait pas de la savoir en chambre. Puis, on la vit dans la bibliothèque ou dans le séjour pour un thé. Mais le peu de sa conversation faisait d'elle un être à part qu'on ne dérangeait pas. et dont on respectait l'étrange attitude dédaigneuse. Elle était fière. C'était ce qu'on disait d'elle quand elle s'en allait. Madame Hinkle devait certainement être plus malade qu'elle ne voulait paraître. La chambre qu'on lui avait attribuée était peinte en blanc, aussi les boiseries anciennes. On voyait un plafond aux jolies moulures et une cheminée y avait été murée. Il y avait de hautes fenêtres et le soleil baignait chaque recoin de la pièce. Le sol était un parquet sur lequel on avait jeté un tapis sobrement coloré. Un lit, une armoire et une grande table en bois jaune avec deux chaises hautes, ce qu'elle avait fait installer là, les dernières reliques d'une autre vie. Tout le monde ici avait fait un jour le même dernier tri. En 2 mois, elle avait organisé sa vie, quelques immuables passages, quelques saluts distingués et puis retour à sa chambre qui, de stères pièces sans âme, avait fini par être un endroit confortable où elle aimait regarder les changements de lumière et de ciel. Comme elle restait silencieuse et polie, loin de toutes les petites embrouilles de la maison, les pensionnaires finirent par admettre qu'elle était une bonne personne, secrète et un peu folle. Le château lui était finalement un mouroir tout à fait acceptable. Madame Hinkle s'acclimata. Elle s'était donné toute une année pour se faire découvrir chaque saison dans la résidence. Elle parvint ainsi à son premier anniversaire de pensionnaire, tenant fort bien son pari, semblant d'une humeur égale, toujours souple et sans grand problème. Elle avait donc la réputation d'être une locataire idéale, autonome et discrète. Personne n'aurait pu alors imaginer ce qui se passait réellement. Elle ne faisait aucune confidence. Elle paraissait être ainsi ce qu'on supposait. Or, il n'en était rien. Un ennui profond avait commencé à l'envahir, c'était venu, quand Madame Hinkle avait constaté que la maison tout entière fonctionnait sur un mode de 2 semaines. Tous les 15 jours, on remettait les compteurs à zéro. On changeait les draps, puis sa chambre entière était soulevée, secouée, brossée, lustrée. À cette agitation qu'il affichait hors de chez elle pour trouver un refuge dans le salon, suivait un menu de midi identique aussi, un bouillon de pâtes, et une assiette de viande froide et du pain noir. Comme elle avait peu de goût pour ce genre de repas, il resta fixé dans sa mémoire, et c'est ainsi qu'elle perçut que chaque jour avait sa propre ordonnance. La maison tout entière tournait ainsi en rond. Elle ne dit rien. Il lui fallut tout de même bien quelque temps pour éprouver d'abord de l'agacement, puis une colère rentrée et ruminante, et enfin une sorte d'épuisement de l'humeur. L'ennui était là, et de mois en mois, elle vivait les jours selon ce que le programme lui inspirait de découragement. Pendant une année, elle supporta, mais soudain, que Mars revienne lui aussi, puis avril et encore mai rendit son malaise presque intenable. Elle aspirait à autre chose, pensait mériter mieux et sombra lentement dans la neurasthénie des impuissants. Madame Hinkle avait eu une vie exceptionnelle, non conventionnelle. Elle avait fait selon ses goûts et n'avait jamais accepté les contraintes. C'était un caractère qu'on n'aurait jamais pu faire plier. Elle était inflexible et sûre d'elle. Ses idées ne se remettaient que rarement en question. On aurait dit assurément qu'elle voulait se montrer sans faiblesse. Elle cacha son état d'esprit et personne ne remarqua rien. Dans ce genre d'histoire, le plus difficile est de trouver ce qui a fait que quelque chose est arrivé. On peut bien tenter d'entrer dans l'esprit de Madame Hinkle. Il reste le plus souvent imperméable à l'étude. Il dit « peut-être oui, c'est à cause de ça ». Il dit « peut-être non ». Elle laisse naviguer et l'écriture balance et cherche à attraper un fil dans l'immense pelote de son destin. On se dit que sans doute, si on avait été à cette place, ce serait quelque chose comme ça qui aurait tout changé. Madame Hinkle était dans sa chambre, la porte était fermée et son regard fixe refaisait la ligne d'horizon. Était-elle en train de se souvenir? Une sensation passa-t-elle, la frôlant? Une idée en balade, jetée depuis quelque part et qui, en ce moment précis, allait faire qu'elle se souviendrait et que son regard scierait et que les cils battraient et le bord des lèvres aussi.